Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CNRS, la radio. Les attentats perpétrés en janvier 2015 puis en novembre de la même année ont montré qu'une partie des jeunes Français est gagnée par une radicalité religieuse et un rejet extrême de la société française ou plus généralement des sociétés occidentales et de leurs valeurs. Alors quels sont les différents vecteurs de radicalisation de la jeunesse? Des chercheurs en sciences sociales mènent des études dans des collèges et des lycées auprès des jeunes pour tenter de comprendre ce phénomène inquiétant. Comment sont menées ces enquêtes? À quelles questions tentent-elles de répondre exactement? Et que nous apprennent-elles sur la jeunesse française? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités. Sébastien Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS, à Sciences Po Grenoble et à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez dirigé plusieurs grandes enquêtes sociologiques auprès d'adolescents pour comprendre leur rapport à la loi, aux institutions ou encore à la religion. On aura évidemment l'occasion d'en parler. Également autour de la table, Olivier Galland. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez le GEMAS, groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Soyez les bienvenus tous les deux. Alors, quelques jours après les attentats du 13 novembre, le président du CNRS, Alain Fuchs, a lancé à la communauté scientifique un appel à proposition, je cite, sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences et ouvrant la voie à des solutions nouvelles. Olivier Galland, vous avez répondu à cet appel à projet en proposant donc de lancer une grande enquête sociologique. Quel était le but de cette enquête exactement ?
Bah écoutez, nous, on est parti un peu du constat que les sciences sociales, nous semblait-il, étaient un peu impuissantes à proposer une interprétation vraiment solide, scientifiquement validée, à la fois de l'ampleur, on va dire, de ce phénomène de radicalité, et puis des facteurs qui lui étaient associés. Alors pourquoi on faisait ce constat ? Parce qu'au fond, on avait deux séries un peu de recherches, soit des enquêtes très qualitatives, de type monographique, de type, par exemple, que fait Keppel ou Olivier Roy ou Kostrokova. Bon, voilà. Des enquêtes très intéressantes, qui sont très suggestives, qui permettent d'avancer beaucoup d'hypothèses, mais qui, nous semble-t-il, du fait de leur aspect très qualitatif, très monographique, ne permettent pas de valider ces hypothèses. D'ailleurs, il y a des débats assez sanglants entre certains de ces chercheurs, hein, par exemple entre Olivier Roy et Keppel.
Bon, avec donc cette islamisation de la radicalité,
voilà,
ou la radicalisation
de l'islam. Voilà. Puis on a effectivement d'autres recherches de type plus quantitatif, par exemple celle qu'a fait l'INED qui s'appelle Territoire et Origine, sur les populations immigrées. Mais là aussi, il me semble que ça ne répond pas tout à fait à la question. D'abord parce que cette enquête, elle était parfaite pour ça. C'est une vaste enquête sur les immigrés. Et l'objet n'était pas, évidemment, de mesurer ces facteurs de radicalité.
Donc, il y avait cette idée de prendre la jeunesse dans toute sa complexité et de voir l'ensemble de ce à quoi pensaient les jeunes dans toute leur diversité dans les établissements scolaires.
Voilà, c'est ça. Alors, on s'est dit, il faut qu'on fasse, du coup, une enquête de grande ampleur sur un échantillon très large, de façon à avoir une grande diversité de populations. Et donc, on a choisi d'enquêter dans des lycées auprès d'élèves de seconde. D'abord, on est parti d'une idée assez simple, c'est d'enquêter dans des quartiers sensibles. Parce que là, a priori, c'est un vivier potentiel de phénomènes de cette nature. Bon. Mais probablement, ça ne suffisait pas. Et donc, on a interagi avec les académies, avec les rectorats. On avait ce soutien. Dans les académies, il y a des correspondants à radicalité, donc ils sont très sensibilisés à ces questions. Et ils nous ont dit, bon, effectivement, il ne faut pas uniquement centrer sur les us. Bon, bah parce que
donc
les zones urbaines sensibles, il ne faut pas uniquement centrer sur les us, parce qu'effectivement, il y a probablement des phénomènes de radicalité dans les us, mais enfin, on a eu des exemples d'ailleurs. On voit qu'il y a aussi des djihadistes qui sont venus de centre-ville, qui étaient de niveau d'études élevé. Donc on a un peu diversifié notre échantillon. On a pris aussi des zones rurales, On a pris quelques lycées de centre-ville, voilà.
En tout, 7000 lycéens de seconde voilà. ont été questionnés, ont répondu oui. à votre enquête. C'est on ça. Verra un peu plus dans le détail hein, comment vous avez réussi oui. à... Parce qu'il faut gagner la confiance de ces jeunes, tout simplement. Parce que vous abordez des sujets vraiment sensibles et vous faites dire à ces jeunes des choses très intimes, parfois, sur leurs convictions et sur ce qu'ils ont pu faire. Vous allez nous dire comment vous avez procédé. Sébastien Rocher, vous avez également mené plusieurs enquêtes sur ces sujets. Alors, il y a ce phénomène de radicalisation, mais vous vous intéressez aussi d'ailleurs, tout comme Olivier Galland, à ce que vous appelez la pré-radicalisation. Alors, dites-nous ce que vous mettez derrière chacun de ces termes, qu'on sache bien de quoi on parle.
Et je me suis demandé ce que j'étudiais, parce qu'il n'y a pas d'accord sur les termes. La notion de radicalisation, il n'y a pas d'accord même chez les policiers, ni chez les scientifiques, ni chez les responsables politiques. Et ce qui est sûr, c'est que dans les enquêtes qu'on a, en faisant des enquêtes représentatives des collégiens et des lycéens, c'est qu'on n'a pas les personnes qui vont partir faire le djihad, où on les a dans une proportion quasi infinitésimale, et donc on peut quasiment rien en dire. Et on ne sait pas lesquels, d'ailleurs, seraient particulièrement disposés à partir d'une lutte armée. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces enquêtes ? On peut rechercher les facteurs qui précèdent. Donc la radicalisation, c'est le processus qui emmène jusqu'à l'action violente. C'est que la formation des intentions, la formation des groupes, parce que bon, ça ne se fait pas tout seul, et ensuite l'acquisition de tous les moyens logistiques. Donc ça, c'est le processus qui est au terme de la radicalisation. Mais avant ce processus-là, qui conduit à l'action, ce qu'on peut regarder, ce que j'appelle la pré-radicalisation, en fait, c'est les déterminants de deux choses. C'est d'abord les déterminants de l'idée que la violence est une bonne idée, voilà, que c'est une bonne idée d'être violent pour résoudre les conflits. Parce que si on n'est pas convaincu de ça, on peut être très hostile, mais si on est non-violent, on ne va pas se radicaliser.
Donc c'est une composante indispensable dans le processus.
Dans le processus, voilà. il faut comprendre comment, à un moment donné, on dit, bah oui, la violence, ça, c'est une bonne solution, la violence contre les policiers, la violence contre les autres groupes religieux ou les groupes qui ne croient pas, voilà, qui ont d'autres convictions. Pas la violence ordinaire, hein, mais ce type de violence-là. Et le deuxième chose, c'est la cause, la juste cause pour laquelle on va s'engager et le détachement de la collectivité nationale. Moi, ce que j'appelle la désidentification nationale. Voilà. Pour moi, c'est ça la pré-radicalisation. C'est quand on se détache d'une collectivité, voire qu'on la déteste, et qu'on dit « oui, c'est une bonne idée d'être violent ».
Donc ce sont ces deux composantes que vous allez essayer de déceler ou de voir comment, dans certains esprits, elles s'installent toujours. Alors évidemment, ce n'est pas tout ou rien. Souvent, c'est ce dont on s'aperçoit en lisant vos études, c'est que voilà, il y a un continuum de différentes positions jusqu'à ce qu'on arrive à l'extrême.
Oui, c'est... Donc moi, je ne suis pas un sociologue des religions. Je ne suis pas non plus un vrai sociologue de la jeunesse comme Olivier, mais j'ai souvent travaillé sur des adolescents, voilà. Et mon domaine de spécialité, c'est plus la question de la police, du rapport aux institutions, en fait, qui garantissent et qui incarnent la loi et qui imposent un certain ordre. Et là, évidemment, on touche pas mal de questions sous-jacentes. Donc en 2011, on a fait une enquête franco-allemande sur 20 000 adolescents dans les deux pays. Et on a découvert que la religion n'avait pas d'effet en Allemagne sur les opinions anti-institutionnelles ou sur l'adhésion à l'idée de nation, que la religion n'avait pas d'effet, mais qu'elle avait un effet en France et que cet effet était assez fort.
Ouais. Voilà, donc une on a différence profonde entre ces deux pays. En France, les valeurs religieuses peuvent venir interférer dans la relation de ces jeunes à la police.
À la police et à la nation. En fait, en France, ce que nous, on a observé, je suis très intéressé de voir les résultats d'Olivier Galland et de son équipe, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, en France, plus on est religieux, plus on attribue d'importance à la religion, plus on va rejeter l'identification nationale. Et ça, c'est vrai pour les catholiques, mais dans une mesure limitée. Et c'est encore plus vrai pour les musulmans. Voilà. Donc on a une sorte de disjonction, si on exagère un petit peu, entre la nationalité, l'adhésion à l'idée de nation et la religion. Mais on se souvient qu'en France, jusqu'à la Révolution française, il fallait être catholique pour être français. Donc, et dans d'autres pays également. Donc cette idée qu'il y a des recouvrements ou des mécanismes repoussoirs entre religion et nation, ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est tout d'un coup de le retrouver dans une enquête.
C'est nouveau et ça vous a surpris. C'est une enquête, hein, je le rappelle, vous l'avez dit, qui date de 2011. Donc c'est-à-dire on est quand même avant ce qui est en train de se passer en ce moment, où on voit effectivement des conflits et même des agressions envers des policiers. On a notamment ces cocktails Molotov jeté dans une voiture de police. Tout ça, finalement, en germe, vous commenciez à le déceler dès 2011.
En fait, oui, et probablement c'était antérieur, hein, mais simplement on n'avait pas fait d'études avant ça. Mais en 2011, oui, on voit ces clivages ethniques et religieux, et pas juste ethniques, puisqu'on voit l'effet de la religiosité, et pas juste donc du groupe ethnique, dans les clivages, dans les affrontements. Et ensuite, donc, ce que je décide de faire avec des ressources nouvelles, dans un autre projet international qui s'appelle UPIC, c'est de développer la question des valeurs sociales et du sécularisme. Parce que je voyais bien les résultats, je voyais bien l'effet de la religion, mais pourquoi ? Comment la religion jouait un effet. Donc, j'ai développé un ensemble de questions en m'inspirant de ce qu'avait fait un sociologue allemand, Ruth Koopmans, en reprenant des questions qui avaient été posées dans d'autres enquêtes sur le sécularisme, donc la relation de la religion à l'État, et puis des valeurs sociales, les valeurs de liberté et d'égalité transposées dans le monde des jeunes.
Alors, cette étude menée donc dans le cadre du PIC, comme vous l'avez nommé, qui est une étude plus large, hein, qui concerne 5 pays en Europe, vous avez dirigé le volet français de cette étude, elle a débuté en septembre 2014. Hein. On est donc là encore avant les attentats, alors que vous, Olivier Galland, c'est à la suite du 13 novembre que vous avez mené l'étude dont on parle aujourd'hui. Quelle différence, il y en a une, il y a dans les deux approches, entre le avant-après-attentat, est-ce qu'on s'adresse, est-ce qu'on pose les mêmes questions ? Olivier Galland.
Oui, je crois que ce n'est pas ça le problème fondamental. D'abord, je voudrais revenir sur la question de la radicalité, parce que ça, c'est important, rebondir un peu sur ce qu'a dit Sébastien. Alors, effectivement, ce terme est contesté. Nous, on y adhère aussi. Donc, nous, on a notre petite définition, hein, et on définit la radicalité comme l'adhésion à des valeurs et des comportements extrêmes qui s'écartent d'une norme où l'altérité des croyances est reconnue, ainsi que le respect des différences et du pluralisme. Voilà. Donc ça, c'est notre définition de la radicalité.
Ouais. Alors qu'il me semblait que vous mettiez le passage à l'acte dans la définition.
Attendez, alors, il y a un cran supplémentaire. Il y a un cran supplémentaire, c'est quand cette intolérance, en réalité, on trouve légitime de l'imposer par la violence. Alors ça, c'est encore un cran supplémentaire dans la radicalité. Et évidemment, il y a des seuils. Ça, Sébastien l'a bien dit. La petite différence peut-être avec Sébastien, c'est qu'on s'est dit qu'il serait intéressant également d'étudier différentes formes de radicalité. Parce que, évidemment, on est aujourd'hui centré sur la radicalité religieuse, mais il peut y avoir aussi une radicalité politique, une radicalité culturelle, une radicalité sociale. Voilà. Donc, dans notre enquête, on a voulu essayer de cerner ces différents types de radicalité et de voir les liens qu'il pouvait y avoir entre eux.
Alors très concrètement, Olivier Galland, quelles sont les grandes catégories de questions que vous avez ? C'est un long questionnaire, hein, 85 questions que vous avez soumises à ces jeunes de seconde. Qu'est-ce que vous avez essayé de savoir ? Quelles questions vous leur avez posées ?
En fait, on est parti de différents jeux d'hypothèses qui ressortaient des travaux qualitatifs que j'ai cités tout à l'heure. Bon alors, il y a évidemment une hypothèse religieuse qui apparaît dans beaucoup de travaux. Mais il y a aussi des hypothèses de nature plus sociologique. Une hypothèse qu'on pourrait appeler une hypothèse de rupture de socialisation. Voilà, le rejet des parents, une forme de mépris à l'égard des parents, du métier qu'ils ont exercé, du fait qu'ils aient été exploités.
Donc on leur pose des questions sur leur famille, sur leur environnement, sur le niveau d'études des parents, sur la façon dont ils se parlent entre eux.
Sur le degré auquel ils adhèrent au métier des parents, degré auquel ils s'entendent bien avec leurs parents. Bon. Il y a une hypothèse très classique en sociologie, qui est une hypothèse de frustration relative. Bon, voilà, on adhère au but que nous propose la société, mais on n'a pas les moyens légitimes de les réaliser. Bon, d'où une frustration et des comportements déviants. Bon, c'est une hypothèse très, très, très classique qu'on peut essayer de tester aussi. Une autre hypothèse un peu voisine, mais différente, qui serait une hypothèse de discrimination, de sentiment d'injustice et de discrimination, notamment lié à l'origine ethnique, une autre hypothèse de perte identitaire. Enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de jeux d'hypothèses. Ouais. Donc on a construit le questionnaire, si vous voulez, en ayant en tête toutes ces hypothèses et en essayant de construire des questions qui permettent de tester ces différents niveaux.
Alors, on va évidemment discuter un peu des premiers résultats, encore que dans le cas de votre enquête, Olivier Galland, comme les résultats sont tout frais, tout n'a pas été encore analysé, donc on ne peut pas encore tout dire. Mais avant de considérer ces résultats, pour savoir ce qu'ils valent en quelque sorte, on aimerait savoir comment vous les avez obtenus, comment vous procédez exactement pour vous adresser à ces jeunes, pour aller dans les établissements, gagner leur confiance en quelque sorte, parce que, encore une fois, vous leur posez des questions très personnelles. Sébastien Rocher.
Alors oui, il faut d'abord gagner la confiance de l'éducation nationale avant d'atteindre les élèves. Donc ça, c'est une administration pyramidale qui a un sommet, le cabinet du ministre. Donc on obtient, dans le meilleur des cas, un courrier de soutien, et muni de ce sésame, on se dirige vers les rectorats qui vont participer à l'enquête. Et là, le recteur, s'il est convaincu, s'il souhaite participer, parce que ça, en fait, on a une autorisation de faire, mais on n'a pas un droit à faire, à ce moment-là, il ouvre la porte de son administration. Et on a à ce moment-là un accès aux chefs d'établissement. Et à nouveau, donc, il faut convaincre les chefs d'établissement de participer. Nous, on a un taux d'enrôlement à peu près de 1 pour 2 dans l'ensemble des enquêtes depuis 2011.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des chefs d'établissement qui refusent de participer enquêtes. Pour quelles raisons ?
Alors, la principale raison, c'est les bons établissements de centre-ville. Par les résultats scolaires et parce que par le recrutement de population qui sont les établissements bourgeois, on va dire qu'on appelle parfois bourgeois de centre-ville, eh bien ils voient ces enquêtes un peu comme une tâche sur leur réputation, comme si on suspectait qu'il puisse y avoir ou des délinquants ou des consommateurs de cannabis ou que sais-je dans leurs établissements.
Olivier Galland.
Dans l'ensemble, enfin nous, on a été frappés, si vous voulez, du très bon accueil qu'on a eu du côté des proviseurs parce que ils sont très inquiets. C'est une thématique qui est très, très actuelle.
Ouais. Et qui est très sensible. Hein,
très sensible. Et donc, ils sont très appétents à avoir des résultats, y compris d'ailleurs sur leur propre établissement.
Ouais. Alors, ça pose aussi la question de ces résultats sur leur établissement. Dans quelle mesure sont-ils anonymes ? Parce que vous leur faites dire des choses très personnelles. On sait qu'en France, tout ça est, dans d'autres pays aussi, très encadré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker des informations sur beaucoup de choses. Là, vous faites parler de la religion, des origines. Alors, comment vous garantissez ça d'un point de vue éthique ?
Oui, c'est sûr. Nous, on a une grosse partie qui est de la délinquance autodéclarée. Donc, qui sont des crimes, des choses qui sont punies par la loi, qui sont déclarées, un certain nombre de préférences politiques également, des préférences religieuses. Donc tout ça est considéré hautement sensible.
Et oui.
Donc il y a tout un protocole. Nous, on a soumis ça à la CNIL, qui a validé en fait le questionnaire et donc qui a aussi validé les modes de stockage des données et les modes d'anonymisation. Donc, et on a essayé de retranscrire au moment des interactions dans les classes, on a essayé de former d'abord nos enquêteurs et à transmettre cette réalité qui est que l'enquête est anonyme et qu'on ne peut pas remonter aux résultats. Et pour ce qui nous concerne, nous, on a d'emblée, parce qu'on avait l'expérience antérieure, on a dit au chef d'établissement qu'on ne donnerait pas de résultats par établissement à cause de cette question de l'anonymat. Parce que si on prend les élèves d'un certain âge, les garçons qui sont bons à l'école, etc.
Au bout d'un moment, on finit par remonter par un petit nombre.
Donc tout dépend. Donc nous, de notre côté, on a affiché ça d'emblée. Donc on a dit, OK, on ne les donnera pas. On peut les donner par catégorie d'établissement, mais on a dit
pas trop de détails pour pas retrouver établissement. Voilà. Olivier Galland veut réagir.
Oui, non, mais alors nous, on est passé effectivement par le correspondant CNIL du CNRS. Et là, la consigne était simple, si j'ai bien compris, pour ne pas être sous le coup de la loi informatique et liberté, il faut effectivement garantir l'anonymat du questionnaire. Et d'après ce qu'ils nous ont dit, l'anonymat du questionnaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en croisant les différentes informations que l'on a dans le questionnaire, on ne puisse pas avoir moins de 5 personnes dans une case. Vous voyez, voilà.
D'accord.
C'était ça le critère.
Pour éviter qu'on puisse se retrouver,
L'on puisse retrouver une personne en croisant, par exemple, son sexe, sa classe, le travail de ses parents, sa religion, etc. Vous voyez. Donc voilà, en croisant, c'est. Alors d'ailleurs, ça nous a conduit à changer certaines questions. Et à, par exemple, la profession des parents, on a fait des grosses catégories.
Ah oui.
Oui, parce qu'au départ, on avait des catégories plus fines, et ils nous disaient, ah ben non, là, si on croise, on va avoir moins de 5 personnes dans une case. Donc, non.
C'est intéressant de rentrer dans ce détail-là, parce qu'on voit à quel point c'est minutieux, et quand on est sur des sujets comme ça, rien n'est laissé au hasard. Il y a une autre question aussi que je me pose, c'est comment vous dites que vous vous adressez à des jeunes pour certains qui sont un peu en rupture, en grande méfiance vis-à-vis des institutions. Vous leur faites dire des choses très personnel et parfois même avouer des délits qu'ils ont pu commettre. Pourquoi ils vous font confiance? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à répondre honnêtement à vos questionnaires?
Il y a une... D'abord, bon, ça leur fait sauter une heure de cours.
Oui, ils pourraient sauter une heure de cours et répondre n'importe quoi.
Oui, répondre n'importe quoi. Non, mais je veux dire, ils ont une gratification. D'abord, ils font autre chose que ce qu'ils font d'habitude.
Ouais.
Et ils répondent à des questions. Alors, je pense qu'il y a une grande partie des questions qui sont communes, même si je n'ai pas vu le questionnaire d'Olivier Galland, qui parlent de leur vie quotidienne, c'est-à-dire de leurs loisirs, de leurs copains, de la consommation de cannabis, des sorties, etc. etc. Mmh. Donc voilà, donc c'est un questionnaire dans lequel ils vont se retrouver. Voilà.
Parlez-moi de moi, ouais, ça m'intéresse.
Voilà, ça m'intéresse. Et ensuite, on arrive à des questions, alors qu'ils sont groupés. Lorsqu'on a la famille, on a la famille et la religion, par exemple, hein, thématiquement. Et on a des questions plus sensibles qui se situent plutôt à la fin du questionnaire pour éviter que s'il y a une rupture, eh bien, on perde la totalité de l'enregistrement. Voilà.
Ah oui.
Et ça leur est expliqué. Je veux dire, l'anonymat leur est expliqué. Je veux dire, on cherche à gagner leur confiance en montrant en fait la transparence du protocole. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais il y a des gens qui vont refuser. Hein. Nous, on a une classe, par exemple, qui a commencé à discuter. Et tout d'un coup, il y a une opinion assez majoritaire qui s'est dégagée, qui était qu'ils ne voulaient pas faire l'enquête. Mmh. Et une mécanique de groupe non contrôlée. Et on a perdu la classe. Donc nous, on était tout à fait partant pour que ce soit le cas. C'est-à-dire, puisque c'était volontaire,
accepter le refus.
On accepte le refus.
Olivier Galland.
Oui, alors... il n'est pas interdit d'être un tout petit peu démago. Et donc, on a, nous, rodé un petit discours qui était un peu de ce style. Bon, voilà, on fait une enquête sur les jeunes, sur ce que pensent les jeunes. Et dans la presse, dans les médias, la télé, aujourd'hui, on dit beaucoup de choses sur les jeunes qui sont sans doute parfois fausses. Donc, nous, on a décidé de vous demander votre avis.
C'est-à-dire que vous ne leur avez pas dit « on vient faire une enquête sur la radicalisation des jeunes », vous leur avez dit « on vient écouter ce que vous avez à dire ».
Et on va demander votre avis, et vous avez été sélectionné pour répondre à cette enquête.
Alors il y a un peu de manipulation quand même, Olivier.
Il n'y a pas de manipulation, mais c'est bon, ben voilà, non, mais il faut, il faut utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Et ils étaient contents d'être sélectionnés. Mmh, voilà. Et donc, dans l'ensemble, vous savez, les jeunes sont contents de répondre à ces questions. Alors, sauf sur un point, je dois dire, où là, ça ne marchait pas très bien, c'était les questions politiques.
Ouais.
Parce que, alors je ne pense pas que Sébastien ait posé dans son questionnaire beaucoup de questions politiques, ce n'était pas tellement son thème. Mais nous, comme on étudiait un peu la radicalité politique, donc on a posé des questions politiques. Et là, je dois dire que j'étais, alors on s'en doutait un peu, mais j'étais quand même surpris par vraiment la rupture de la socialisation politique de ces jeunes.
Vous m'avez dit, par exemple, la question numéro 45 sur ce questionnaire qui en contient 85. Pour chacune des personnalités suivantes, quelle est ton opinion? Donc, vous adressiez donc à ces jeunes. Dieudonné, le pape François, Oussama Ben Laden, le Dalai Lama, Tariq Ramadan, Barack Obama. Et puis à chaque fois, ils doivent dire j'aime, je n'aime pas ou je ne connais pas.
Ouais.
Et vous m'avez dit, cette question n'a pas marché parce qu'ils ne connaissaient pas les trois quarts des noms qu'on leur a soumis.
Ils ne connaissaient pas les trois quarts des noms, voilà.
Ouais.
Donc voilà, il y a une rupture vraiment de la culture politique, de l'information sur la société, de la connaissance de la société. Et on a l'impression que la culture de ces jeunes, si vous voulez, est un peu clivée et est un peu, en dehors de la culture commune de la société,
la société actuelle. À un point assez quand même étonnant et un peu inquiétant, vous me disiez, certains, vous posez la question pendant le questionnaire, vous demandez, mais c'est quoi la droite et la gauche?
Certains, beaucoup.
Bon, alors,
beaucoup.
Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment aucune idée de l'échiquier politique.
Beaucoup nous ont dit ne pas savoir ce qu'était la droite et la gauche.
Mais il faut dire que c'est quand même compliqué.
Mais oui,
est-ce
que
Emmanuel Macron est à gauche? Je pense que ça reflète aussi cette difficulté.
Ah oui, mais là, c'était plus que ça, si tu veux. C'était pas sur le brouillage des repères politiques, ça aurait été des experts.
Oui, là, du coup, ça aurait révélé une certaine
finesse
d'analyse.
Là, c'était une méconnaissance profonde, une méconnaissance profonde. Ils ne savent pas ce que c'est que là. Même, ils ne savaient pas si Hollande était de gauche. gauche ou pas.
Enfin bon, ça peut se discuter.
On va rentrer dans un débat politique.
Le premier Hollande et le deuxième, mais je pense que
mon exemple n'est pas très bon là.
Mais voilà, donc ça nous a quand même beaucoup frappé. Donc la question, non mais d'ailleurs, je pense que ça pose des problèmes à la sociologie politique. Parce que toutes ces questions classiques, si vous voulez, de sociologie politique, par exemple l'échelle gauche-droite, mais l'échelle gauche-droite, je veux dire, 40% n'ont pas répondu, et le reste est mis en gros en 5 pour dire, on ne sait pas trop, on est au milieu. Voyez. Donc là, ces instruments, moi ça m'a beaucoup frappé, ça, auprès de ces populations, ces instruments classiques, si vous voulez, de la sociologie politique, me semble sont largement obsolètes.
Alors, dans votre questionnaire à vous, Sébastien Rocher, il y avait une part de questions sur les infractions, les délits que ces jeunes avaient pu connaître, ce qui veut dire que dans votre fichier, vous avez des pourcentages que la police elle-même ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il y a des délits impunis que des jeunes vous ont avoué sous couvert d'anonymat lors de vos enquêtes.
Ah oui, on a toute une partie que je considère très précieuse, donc qui s'appelle de délinquance auto-déclarée, parce que c'est la délinquance qui est commise par les auteurs, donc qui connaît la réalisation des délits ? Les auteurs. Donc les auteurs sont les mieux informés. Ensuite, une partie des délits est connue, par exemple, de la famille, une partie peut être connue de la police et une encore plus petite partie est connue de la justice. Mais l'essentiel des infractions commises par les adolescents ne sont pas connues des autorités. Donc on n'a pas une idée de leur ancrage dans la délinquance à partir des statistiques officielles de la délinquance, mais on l'a à partir de ce type d'enquête. Et ça, moi je pense que c'est un élément très intéressant pour expliquer justement les mécanismes de radicalisation, parce que soit on estime qu'on part de rien et qu'on développe en fait des comportements violents extrêmes, soit on imagine qu'il y a des trajectoires. Et donc moi, je pense quand on utilise ces variables, on voit bien qu'elles expliquent en fait les attitudes violentes, la pratique de la violence, l'habitude de la délinquance, la composition de groupes délinquants. On a pas mal de questions là-dessus, en fait, est un des principaux prédicteurs en fait de l'idée que la violence est une bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça dans le profil des jeunes djihadistes. En fait, quand on voit leur parcours, ils ont un parcours de petits délinquants. Pour beaucoup, ils ont été arrêté par la police. Donc on retrouve bien ce tropisme ou cette caractéristique qui est liée à l'ancrage dans la délinquance. Et ce type d'enquête, c'est un protocole international qui s'appelle l'ISRD, est fait pour le saisir.
Alors, précisez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un protocole ISRD.
L'ISRD, ça veut dire International Self-Reported Delinquency. C'est la délinquance auto-déclarée. Donc, dans les années 50, les sociologues américains ont développé ces outils parce qu'ils avaient compris que la plupart des délits, justement, n'étaient pas commis. Qu'on soit auteur, ces délits n'étaient pas connus. Ou qu'on soit victime, les délits n'étaient pas non plus connus. Donc, on a développé ces outils à partir des années 50. Et 30 ans après, les Européens les ont adaptés. Le Canada a joué un rôle de médiateur. Et on a développé en Europe un protocole qui maintenant s'appelle ISRD, qui est une sorte d'outil standard qui est utilisé par les criminologues. Et cet outil, il est fait pour recueillir de la façon la plus neutre possible, en fait, les informations relatives aux délits commis. Donc, la formulation des questions est neutre de façon
à ne pas. On essaie juste de savoir et de ne montrer ni réprobation, ni
approbation. On reste très neutre dans les formulations. On ne dit pas est-ce que tu as affreusement torturé quelqu'un. Non, on dit est-ce que tu as donné des coups à quelqu'un au point qu'il doive recevoir des soins médicaux. On a des formulations très cliniques, en fait, qui ne sont pas teintées par des valeurs.
Pardon, je vous pose une dernière fois cette question et puis après, je prendrai plus les conclusions de vos enquêtes, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'ils ne vous ont pas mené en bateau et qu'ils ne se sont pas amusés à jouer au loto avec vos grilles en racontant n'importe quoi ?
Certains l'ont fait, sans doute, si vous voulez, une petite minorité. On a vu des cas dans certaines classes. J'ai vu un cas, je faisais passer l'enquête, où un jeune disait je mets n'importe quoi. Et il disait aux autres, mettez n'importe quoi. Bon, voilà, c'était un peu un rebelle. Donc, voilà, il y a quelques cas comme ça. Je veux dire, on ne peut pas voilà, on ne peut pas être sûr que tous les jeunes répondent sincèrement au questionnaire. Mais enfin, je crois que c'est des cas quand même très, très marginaux.
Est-ce qu'il y a des garanties qui existent entre différents établissements, des proportions qui se retrouvent, une sorte d'homogénéité de résultats qui permet de se dire « c'est pas le fruit du hasard, ils n'ont pas fait n'importe quoi » puisqu'on retrouve à peu près les mêmes tendances dans des endroits différents, dans des établissements
Nous, on a corrigé un certain nombre de valeurs extrêmes. Donc, c'est un choix de méthode, c'est-à-dire qu'on a regardé les distributions des valeurs, et oui, c'est vrai.
Quand il y a un point aberrant, vous l'enlevez.
Il y avait des questionnaires qui répétaient en fait des valeurs aberrantes. Donc on a mis 6 mois à nettoyer le fichier, nous on n'avait pas été très très rapide, mais parce qu'on a été confronté sur toutes les indications de quantité à des quantités qui laissaient penser qu'il y avait un problème. Donc on les a scrutés en fait systématiquement avec des outils statistiques et après un par un, parce qu'on avait des doutes.
Olivier Galland.
Oui, alors deux choses, mais je vais un peu dans le même sens que Sébastien. D'une part, dans une analyse d'un questionnaire comme ça, on ne traite pas une question l'une après l'autre. On traite un ensemble de questions. Voilà. Et on essaye de. Et donc, il se dégage une cohérence de l'ensemble de ces réponses. Mmh. Alors, sauf s'il y a des cas complètement incohérents, effectivement, à ce moment-là, on les élimine. Généralement, il se dégage des cohérences. Donc, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je crois que, si vous voulez, le problème, c'est pas tellement des jeunes qui répondraient n'importe quoi. Ça, je pense que c'est marginal. Par contre, ce qu'on a vu, et on le voit dans notre enquête, il va falloir qu'on nettoie le fichier de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est qu'il y a des jeunes qui ne répondent pas à certaines questions.
Ouais.
Ça, on l'a vu, par exemple, sur les questions très sensibles liées aux attentats qu'on a posées dans notre questionnaire. On voit qu'on a un taux de non-réponse relativement élevé, parce que probablement, il y a des jeunes qui étaient gênés par ces questions-là et qui peut-être ne voulaient pas se dévoiler, qui n'ont pas répondu. Mais ces non-réponses, on va les traiter comme une réponse, en réalité.
Hein. Oui, ça montre une gêne, ça montre quelque chose.
On va les traiter, ouais. Ça voudra dire quelque chose. Ouais. Voyez, mais c'est plutôt ça, je pense. Hein. C'est des jeunes qui refusent de répondre.
Alors, quels sont les enseignements les plus marquants qui ressortent de vos enquêtes, Sébastien Rocher?
Donc moi, ce qui m'a frappé, donc à partir de 2011, donc c'est le clivage religieux en France, la force du clivage religieux en France. Bon. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai développé des modules supplémentaires pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière la déclaration d'une foi et d'une intensité de la foi. Donc on voyait bien que ces variables jouaient, mais je ne savais pas trop ce qu'il y avait derrière. Donc ça, c'était la première chose, parce que finalement, la sociologie de la délinquance, ce n'est pas des variables qu'on étudie en France. Sur l'analyse de la relation à la police, ce n'est pas non plus des variables qu'on étudie en France. Hein. Sur l'acceptation des institutions, finalement, on fait comme si la religion n'avait pas d'importance pour la reconnaissance de la légitimité des institutions. Donc, quand j'ai vu les résultats, j'ai été surpris par l'ampleur en fait des contrastes. Et puis la deuxième chose qu'on a découverte, mais qui est déjà très connue comme souvent pour ce qu'on croit être une découverte, c'était le rôle de la population des athées. La population athée en France, qui est la population majoritaire en fait, que si on ajoute les athées plus les catholiques qui pensent que leur religion n'est pas très importante pour eux, en fait on a un énorme bloc de la société française, et en fait c'est ce bloc-là qui est le soutien le plus fort des institutions. C'est celui qui croit dans les valeurs libérales, les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté, qui croit que la police doit être obéie. Donc c'est ça ce qu'on a découvert, le rôle pivot des athées dans la société française, qui est une société extrêmement sécularisée. Donc, pour moi, ça, ce sont deux éléments importants. Puis peut-être une troisième qui est liée à ça. Comment on couvrait des zones riches et des zones pauvres? On a regardé les effets des quartiers en interaction avec la religion, pour savoir en fait si la religion cachait pas un effet de la pauvreté du quartier. Et on a vu en fait que la force des convictions religieuses jouait dans tous les environnements. C'est-à-dire que le fait d'être croyant dans sa religion, eh bien ça c'est quelque chose qui n'est pas déterminé par les conditions socio-économiques. Et on retrouve, nous, les résultats de l'enquête Théo, et je suis curieux d'entendre les résultats un peu plus tard d'Olivier là-dessus.
Donc l'enquête Théo, qui est aussi une enquête qui a été menée...
Une enquête nationale qui a été menée, pas avec très peu de questions sur la religion, mais qui a été menée, donc trajectoire et origine, il y a maintenant 8 ans à peu près, sur la population adulte.
Parmi les questions que vous avez pu traiter, il y avait la religion au-dessus de la loi, et notamment si une loi heurtait des principes religieux, que ferais-tu ? Donc là encore, c'est la question que vous adressiez aux jeunes. Est-ce que ils suivraient leurs principes religieux ? Et là, vous avez donc des pourcentages effectivement assez tranchés. 68,1% des musulmans qui disent « je suivrai mes principes religieux » et les catholiques, 33,9%. Donc c'est un peu ce que vous disiez. Selon la confession à laquelle on appartient, on place plus ou moins haut les valeurs religieuses par rapport à la loi.
Voilà. Donc en fait, dans nos sociétés, il y a la nation... et la loi, donc, et la nation est la source de la loi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des adolescents qui ne reconnaissent pas, qui ne se reconnaissent pas dans la nation, donc moi j'appelle ça une désidentification, hein, et qui ne reconnaissent pas la supériorité de la valeur de la loi civile sur toutes les autres lois. En fait. Et également, du point de vue des enseignements, qui reconnaissent que pas les enseignements scientifiques, et notamment tous les enseignements sur l'origine des espèces, l'origine de la vie, et qui disent que ben, finalement les principes religieux qui expliquent la vie par Dieu sont plus importants que les observations des scientifiques. Donc effectivement, on voit ce clivage, et ceux qui croient le plus à la loi, je dirais à la nation et à la science, ce sont les athées.
Olivier Galland, alors là encore, votre étude vraiment est toute récente puisqu'elle a été déclenchée à la suite des attentats du 13 novembre. Il y a déjà quelques remarques qui vous frappent quand même dans quelques premiers résultats.
Bon, d'abord, je rebondis sur cette question de la religion. Bon, on est vraiment dans les traitements préliminaires de notre enquête, donc je vais rester extrêmement prudent. Mais l'impression que j'ai en regardant de façon un peu superficielle pour le moment les résultats, c'est que ce facteur religieux, moi je pense qu'on va aller, on va confirmer ce que dit Sébastien Rocher. Mmh. Ce facteur religieux est absolument, absolument fondamental. Il y a d'ailleurs quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'il y a vraiment dans ces jeunes qu'on a enquêtés, dans ce type de lycée plutôt, des lycées populaires, il y a un clivage religieux effectivement très fort entre ces jeunes. D'une part parce que dans les lycées qu'on a enquêtés, la première religion, c'est la religion musulmane. 28% des jeunes qu'on a enquêtés se disent de religion musulmane, alors que l'autodéclaration d'appartenance à la religion catholique est maintenant minoritaire parmi ces jeunes-là, et que le plus gros groupe, évidemment, c'est les athées.
Ce n'était pas le cas pour les établissements dans lesquels vous avez enquêté, je crois, Sébastien Rocher.
C'est une question d'échantillonnage. Nous, on avait des villes entières, donc Grenoble, Lyon, Marseille et Aix, mais nos résultats ne sont pas très différents de ceux d'Olivier Galland, parce que nous, on a en premier les athées, en deuxième les catholiques, mais collés aux catholiques, on a les musulmans avec des taux qui ressemblent à ce que tu viens de dire. Donc, on n'est pas, en fait, très, très différents.
Et il nous semble que sur les valeurs, voilà, on a tout un ensemble de questions sur les valeurs, valeurs républicaines, laïcité, rapport, par exemple, la tolérance à l'égard de l'homosexualité, le rôle des femmes dans la société, etc. Il nous semble que sur ces valeurs, ce clivage religieux est très fort, hein, très très fort, et qu'il oppose quand même les musulmans aux autres. Et alors d'ailleurs, je rebondis sur la question que tu as abordée, religion et science. On en a posé la question aussi. Hein, et donc on avait une question là-dessus. Lorsque la religion et la science s'opposent sur la question de la création du monde, d'après toi, qui a raison le plus souvent? C'est plutôt la religion qui a raison, 33%. C'est plutôt la science qui a raison, 48%, et 19% ne répondaient pas à la question. Donc on voit qu'il y a un tiers des jeunes, alors là, toutes religions confondues, un tiers des jeunes qui pensent que c'est... Alors,
j'ai pas que c'est la religion qui prévaut sur les questions la création du monde et de comment la vie est apparue.
Je n'ai pas fait le tri avec la religion, mais j'imagine bien le résultat. Ce qui nous frappe aussi, c'est que, en regardant de façon assez superficielle les résultats, c'est que finalement, il y a un rapport assez confiant et assez apaisé, semble-t-il, à l'école et à la famille. Voilà. Il n'y a pas un gros pourcentage de jeunes, y compris de jeunes d'origine étrangère, qui, par exemple, se sont traités de manière injuste par l'école ou qui sont en rupture avec leurs parents. Donc, ces deux grandes instances de socialisation, si vous voulez, que sont l'école et la famille, finalement, les rapports, contrairement à peut-être certaines idées reçues qu'on pourrait avoir, par contre, le rapport à la société est beaucoup plus problématique, à la société dans son ensemble. Hein. Il y a une forte proportion de ces jeunes qui considèrent que, par exemple, que la société française est injuste. Et il y a une forte proportion de jeunes aussi, bien sûr, surtout chez les jeunes d'origine étrangère, qui estiment qu'ils ont été discriminés en fonction de leur origine ou de leur religion.
Ouais. Vous dites entre un quart et un tiers des jeunes d'origine étrangère se sentent discriminés en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine.
Oui, ce qui veut dire quand même qu'il y en a deux tiers ou les trois quarts qui ne se sentent pas discriminés.
Oui, c'est, voilà. Bon, on peut aussi voir les choses un peu moins négativement. Enfin, c'est quand même beaucoup. Hein. Un tiers des jeunes qui se sentent discriminés, c'est quand même un terreau. Enfin, là, je m'improvise sociologue, mais on se dit que c'est quand même un terreau fertile pour ensuite avoir envie de justement se rebeller et puis se détacher encore plus de la société.
Ouais, ce qu'on voit là aussi en essayant de regarder les résultats avec des systèmes un petit peu sophistiqués d'analyse, c'est que les conditions de vie, et notamment la résidence dans les quartiers pauvres, qui est associée avec ces différentes frustrations, alimentent la délinquance et les rapports antagoniques avec la police. Et ce sont ces rapports antagoniques avec la police et la délinquance qui emmènent ensuite vers la légitimation de la violence. Mmh. Donc moi, je les situerais effectivement quelque part dans l'explication de la propension à utiliser la violence ordinaire. Mais à mon avis, ce n'est pas forcément la même chose que la violence politique ou religieuse qui, elle, n'a pas de but acquisitif. Hein. Ce n'est pas du trafic, ce n'est pas du vol, on ne s'enrichit pas, c'est un sacrifice de soi. Donc là, c'est peut-être une autre dynamique. Hein. Le petit délinquant, la culture du petit délinquant, c'est pas la culture du sacrifice de soi.
Alors, pour résumer, parce qu'on a brassé beaucoup d'idées, abordé beaucoup de thèmes, de ces études, qu'est-ce que, grâce à vos travaux, qu'est-ce qu'on comprend mieux sur les mécanismes de radicalisation, sachant qu'on n'est pas obligé d'avoir tout compris, et puis qu'en plus, certaines des études ne sont pas encore complètement dépouillées. Donc, on va rester modeste sur les conclusions, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que sera apporté à la compréhension des mécanismes?
Moi, je pense que d'abord, la comparaison franco-allemande montre que les effets religieux sont conditionnés par d'autres types d'effets qui sont des effets contextuels. C'est-à-dire que si la religion a des effets en France, mais que la même religion musulmane n'a pas d'effet en Allemagne, ça veut dire qu'il y a quelque part une interaction entre les convictions individuelles et des caractéristiques du contexte. Et notamment, la forme du sécularisme français, par exemple, peut être quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il est bon ni qu'il est mauvais, mais c'est clair qu'en Allemagne, il y a une forme de sécularisme qui est différente. Et donc, il y a une place de la religion dans la société qui est différente. Donc ça, c'est une première chose. Si on analyse juste les convictions religieuses en France, on va croire qu'elles ont le même effet partout. Mais ce n'est certainement pas ce que nous, en tout cas, nous avons pu observer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est pour moi, c'est l'idée qu'en fait, il y a différents ingrédients dans la radicalisation et que ces ingrédients eux-mêmes, ils ont des facteurs qui sont distincts. Moi, je dirais qu'il y a une sorte de double hélice ou de double moteur de la radicalisation. Mmh. Un pied, c'est vraiment les mécanismes d'exclusion socio-économique qui préparent à la violence. Et un autre pied, c'est la conviction religieuse qui sépare de la nation. Et que c'est la conjonction en fait, de moteurs ou de sources d'influence différentes qui permet ensuite ou qui cause la radicalisation.
Mmh. Olivier Galland, vous voulez ajouter quelque chose ou vous réservez vos conclusions?
Moi, là, je joue mon joker, là, parce que...
Voilà, il est trop tôt.
Voilà. Il est trop tôt. Vraiment, on est dans un stade trop préliminaire sous les nos résultats pour vraiment que je puisse faire état de conclusions.
Aussi, un mot, c'est bien de comprendre, c'est bien aussi d'essayer de trouver des solutions. Alors, est-ce que vos travaux permettent d'envisager des solutions pour éviter que ce phénomène de radicalisation chez les jeunes s'accentue, perdure, pour éviter ce problème?
D'abord, si on est d'accord avec l'idée, en gros, que la trajectoire dans la petite délinquance est une étape qui emmène jusqu'à la légitimation de la violence, eh bien, les mécanismes classiques généraux de prévention de la délinquance dans les zones les plus défavorisées mériteraient d'être pris en considération. Et c'est vrai qu'il y a un affaissement aujourd'hui des mécanismes de prévention. On est plus sur, il faut détecter les gens très violents pour les neutraliser, mais la prévention générale a perdu de son relief politique. Elle est plus suffisamment portée. Ensuite, il y a un deuxième facteur qu'on voit très bien jouer, c'est le sentiment d'être discriminé par la police. Donc, et la discrimination policière semble avoir un effet plus puissant que la discrimination ressentie à l'école. Donc, et là, je parle par exemple des contrôles au faciès. Donc là, si les institutions qui incarnent la loi ne traitent pas également tous les membres de la société, mais ceux qui se sentent pas traités également et qui ne le sont pas, vont dénigrer, en fait, vont refuser l'idée de société, parce qu'elle va exister à travers les relations, notamment avec les policiers, avec les enseignants, etc. Puis la troisième chose, c'est sur les questions religieuses. Moi, je pense qu'il y a une discussion à avoir autour des valeurs. Le problème, ce n'est pas du tout d'être musulman, catholique, protestant, etc. Le problème, c'est les valeurs qui sont associées avec la religion. Et là, je crois qu'il y a vraiment une discussion à mener avec les élèves dans le cadre des établissements scolaires, sur, par exemple, sur l'importance de l'égalité homme-femme. Le problème, ce n'est pas d'être musulman ou d'être catholique ou d'être athée. C'est de dire qu'il y a des choses qui nous font tenir ensemble et c'est la croyance dans l'égalité. Donc, comment on discute de ça ?
Olivier Galland.
Ce que dit Sébastien est important. Et nous, on a décidé de revenir dans certains établissements, une fois qu'on aura compilé nos résultats, et puis de faire quelques groupes de discussion, focus groups avec des élèves pour les faire réagir aux résultats et approfondir un peu les choses. Parce que si vous voulez, il faut faire, en sociologie, il faut faire interagir quantitatif et qualitatif. On met en évidence des relations entre des variables, mais parfois, il y a plusieurs interprétations possibles de ces relations. Et là, le qualitatif peut être très, très intéressant pour valider une interprétation plutôt qu'une autre.
Il y aura donc une suite à cette étude.
Tout à fait.
Merci Olivier Galland et Sébastien Rocher. Je signale le titre de vos derniers livres respectifs. Sébastien Rocher, De la police en démocratie aux éditions Grasset. Et pour vous, Olivier Galland, La France des inégalités, réalité et perception. C'est paru aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Merci à tous les deux.
Merci.